Je vais passer à la présentation de notre conférencier de ce soir, David Ben-Simon. David Ben-Simon est né le 5 octobre 1954, il est physicien. Il est directeur de recherche au CNRS en biophysique moléculaire, au laboratoire de physique statistique de l'École normale supérieure. Il fait partie dans ce laboratoire du groupe de biophysique des molécules uniques. Pour ce qui est de son parcours, entre 82 et 86, il a passé son doctorat de physique à l'Université de Chicago et pendant la même période, il était assistant de recherche et d'enseignement à l'Université de Chicago. Entre 86 et 88, il était en postdoc au Bell Laboratories aux États-Unis. En 1988, il est devenu professeur associé à l'Université Paris 7 et à partir de 1992, directeur de recherche au CNRS. Depuis 2002, il est enseignant à l'École normale supérieure au DEA Interface Physique-Biologie. David Ben-Simon est spécialiste de biophysique. Ses travaux portent sur la manipulation de molécules uniques et particulièrement sur la micromanipulation de la molécule d'ADN. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales et il a également déposé de nombreux brevets. Et parmi lesquels l'un d'entre eux concerne plus ce dont il va nous parler ce soir, c'est le brevet qu'il a déposé en 1997 pour un appareil de force et de torsion de biomolécules. Il nous en parlera ce soir. Pour ce qui est des prix, il a reçu en 1994 le prix Jacques Monod de la Fondation de France, en 1998 le prix Michael Fellow de l'Institut Weizmann et en l'an 2000 le prix spécial de l'AFP, qui est l'Association française de physique. David Ben-Simon, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour m'avoir invité. Donc, ce soir, je vais vous entretenir de l'étude et de manipulation de molécules uniques. C'est un domaine qui est en pleine expansion à travers le monde grâce à de nombreuses techniques assez récentes, il y a une dizaine d'années, qui permettent d'étudier et de manipuler des molécules isolées, d'ADN, des protéines, des polymères. Je vais vous entretenir de travaux qui ont été faits non seulement par notre groupe, mais aussi par d'autres chercheurs à travers le monde, aux États-Unis, au Japon. Et je terminerai évidemment par les travaux que le groupe que Vincent Croquette et moi-même dirigeons à l'École normale supérieure a effectués. Donc ces travaux, ce ne sont pas nous qui les avons faits, mais plutôt nos collaborateurs et étudiants, Jean-François Allemand, Gilles Charvin, Ninke Decker, Marie-Noëlle Dessinges, dont je vais vous entretenir en particulier de ses travaux, au sujet de sa thèse sur les hélicases, Giuseppe Lia, Timothée Lyonnais et Terence Strick. Donc ce travail a été effectué au laboratoire de physique statistique à l'École normale supérieure à Paris. Alors, d'abord, je vais vous détailler un petit peu mon plan. Vous l'avez aussi sur le projecteur ici, pour que vous ne perdiez pas le fil de mon exposé, vous pouvez toujours vous y rapporter. Donc d'abord, je vais essayer d'essayer de motiver un petit peu pourquoi est-ce que des chercheurs, ces dernières années, se sont mis à étudier les molécules uniques. Je vous ai dit que c'est en partie dû au développement de nouveaux outils, mais pourquoi fallait-il développer de nouveaux outils ? Que gagne-t-on à étudier des molécules uniques par rapport aux études plutôt classiques qui ont été faites jusqu'à présent en biochimie sur un grand ensemble de molécules, donc sur des molécules qui se trouvent dans un tube, et dans un tube, vous avez de l'ordre de 10 puissance 24 molécules, ce qui peut être un très grand nombre à étudier. Donc pourquoi étudier une molécule plutôt que 10 puissance 24 ? Et puis, je vais essayer de vous montrer pourquoi, donc qu'est-ce qu'on gagne à étudier une seule molécule à travers deux exemples. Je n'ai pas le temps de vous décrire tout ce qui se fait dans le domaine, donc j'ai choisi deux exemples. Un exemple qui est le transport intracellulaire par la kinésine, je t'expliquerai plus tard ce que ça veut dire. Et l'outil qui a été utilisé pour étudier cet exemple particulier, ce sont les pinces optiques. Encore une fois, je détaillerai plus en détail cet outil. Et puis le deuxième exemple que je vous détaillerai, c'est l'ouverture de l'ADN par une hélicase. C'est un travail qui a été effectué dans notre laboratoire, c'est le sujet de thèse de Marie-Noëlle Dessinges. L'outil qui a été utilisé pour effectuer ce travail, c'est le piège magnétique, et donc je vous le décrirai, je vous expliquerai comment ça marche. Et puis je terminerai cet exposé par une conclusion sur ce qu'on apprend donc, sur l'étude de molécules uniques. Et puis, quelles sont les perspectives, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur à partir de telles études, quelles sont les avancées médicales, technologiques auxquelles on peut s'attendre. Alors, la première chose dont je voudrais vous entretenir, c'est d'abord où se trouvent les molécules. Alors, notre corps est composé d'organes, le cerveau, le foie, le cœur. Chacun de ces organes est composé de cellules qui sont spécialisées dans le travail particulier, les cellules du cerveau, donc. Dans l'influx neuronal, les cellules du cœur, plutôt dans le battement du muscle. Et chacune de ces cellules, en fait, grosso modo, en tout cas chez nous, et chez tous les eucaryotes, les êtres, les organismes possédant un noyau, se ressemblent et sont spécialisés. C'est-à-dire les cellules eucaryotes, les cellules avec noyau, possèdent des organelles qui sont des petits organes, comme leur nom l'indique, qui sont spécialisés dans un travail particulier. Par exemple, le noyau de la cellule, c'est là que réside l'information génétique, les chromosomes, c'est là que l'ADN est répliqué, c'est là qu'il est divisé, c'est là qu'il est transcrit, c'est là qu'il est réparé, et il y a donc toute une machinerie cellulaire qui va effectuer ce travail sur l'ADN dans le noyau cellulaire. En dehors du noyau, il y a beaucoup d'organelles aussi, en particulier les mitochondries. Donc, les mitochondries pointées ici. Donc, ces mitochondries, donc ça c'était le noyau, là ce sont les mitochondries. Et les mitochondries dans la cellule ont comme rôle de fabriquer l'énergie dont la cellule a besoin. Donc, le carburant cellulaire, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. En général, il y a d'autres molécules, mais c'est essentiellement l'adénosine triphosphate, dont l'hydrolyse adénosine triphosphate donne adénosine diphosphate plus phosphate, donc dont l'hydrolyse de l'ATP va fournir l'énergie chimique dont la cellule va se servir pour effectuer tout ce dont elle a besoin, toutes les synthèses chimiques et contractions mécaniques ou travail mécanique dont je vous entretiendrai d'une partie de ces travaux. Donc, dans les organelles, on trouve des enzymes. Donc, les enzymes, ce sont des protéines, ce sont des petites machines moléculaires qui ont un rôle bien précis. Dans les mitochondries, on trouve des enzymes qui vont être spécialisées dans la fabrication d'énergie, donc dans la synthèse d'ATP. Dans le noyau cellulaire, on va trouver des enzymes, des protéines qui sont spécialisées dans la réplication de l'ADN, donc dans la copie du patrimoine génétique. On va trouver des enzymes qui sont spécialisées dans la réparation de l'ADN, parce que notre ADN est soumis en permanence à des attaques de l'environnement, que ce soit par des UV ou par des produits chimiques, etc. Il va y avoir d'autres enzymes qui vont traduire le message de l'ADN, qui vont servir à fabriquer des protéines. Par exemple, les petits points noirs que vous voyez ici, dans la cellule, tous ces petits points noirs, distribués un petit peu partout, ce sont les ribosomes. Et les ribosomes, c'est l'unité centrale, je pourrais dire, de la cellule, puisque le ribosome est responsable de la synthèse des protéines, c'est-à-dire des autres machines nécessaires au fonctionnement de la cellule. Le ribosome va traduire le message génétique en protéines, et ces protéines, dont je vais vous entretenir de deux en particulier, les kinésines et les hélicases, ces protéines, donc, ce sont elles qui vont faire le travail dont la cellule a besoin, et ce sont elles qui sont les ouvrières de la cellule. Donc, les deux exemples dont je vais vous entretenir, ce sont les hélicases. Donc, les hélicases, ce sont une protéine qui est responsable du dégraphage de la molécule d'ADN. J'y reviendrai plus tard, je vous décrirai plus en détail. Et puis, l'autre exemple dont je voudrais vous entretenir, c'est le transport intracellulaire, comment les organelles ou des molécules dans la cellule sont transportées d'un endroit vers un autre. Et ce transport n'est pas effectué par la diffusion, il ne se promène pas, les molécules dans les cellules ne se promènent pas au hasard dans la cellule, mais elles sont dirigées, sont transportées à partir de leur lieu de fabrication vers leur lieu d'utilisation grâce à ce qu'on a des kinésines, grâce à des moteurs qui sont appelés les kinésines, qui vont se transporter sur des rails qui sont les microtubules et qui sont ici marqués en rouge. Là, c'est un microtubule. Et on appréciera ce transport en particulier quand on remarque qu'une cellule neuronale, donc un neurone, le noyau du neurone peut se trouver à plusieurs centimètres, voire même mètres, de la synapse, l'endroit où le message neuronal est transmis d'un neurone à un autre. L'information génétique qui code pour les récepteurs qui vont donc transférer l'information neuronale, cette information génétique se trouve dans le noyau de la cellule, qui est donc à un mètre de la synapse. Donc l'information génétique va être copiée, va générer des protéines, et maintenant ces protéines-là vont devoir être transportées, amenées vers la synapse où elles doivent fonctionner. Et bien, ce transport du noyau pendant un mètre jusqu'à la synapse, et bien, ce transport ne se fait pas par diffusion, ça prendrait beaucoup trop de temps, on serait déjà mort depuis longtemps si on devait compter là-dessus. C'est effectué par des par cette molécule, donc cette kinésine, ou par d'autres du même genre, qui vont transporter les molécules dans des petites vésicules, qui vont transporter ces molécules qui ont été empaquetées dans des petites vésicules, qui vont les transporter le long des microtubules jusqu'à l'endroit où on en a besoin, qui est donc la synapse. Donc ça, c'est pour vous donner une idée donc, du genre de problème auquel on va s'attaquer et du genre de complexité dont on peut s'attendre dans la cellule. Donc le message principal, c'est que dans la cellule, il y a des moteurs moléculaires, des petites machines qui travaillent, des petites machines à l'échelle moléculaire, dont le fonctionnement est très complexe, et c'est ce fonctionnement-là qu'on veut comprendre en les étudiant une à une. Alors pourquoi les étudier une à une, plutôt que les étudier sur un grand ensemble, comme cela a été fait jusqu'à présent ? Mais je crois qu'un exemple facile à comprendre, c'est celui des coureurs. Si vous voulez étudier comment un coureur parcourt une certaine distance, vous n'allez pas étudier le peloton. Prenez par exemple l'exemple ici du marathon de New York. Vous avez des coureurs qui courent ce marathon, vous voulez savoir est-ce que c'est des coureurs qui courent le marathon d'une seule traite, ou est-ce que ces coureurs courent pendant 100 mètres, 500 mètres, 1 km, et puis ils sont fatigués, ils doivent se reposer, et puis ils reprennent, ils recourent, et puis ils se reposent, ils reprennent, ils recourent, ils se reposent, etc. Eh bien, si vous regardez le peloton en général, vous regardez quand est-ce que le peloton passe la ligne d'arrivée, vous ne pouvez pas savoir en regardant quand est-ce que le peloton a passé la ligne d'arrivée, si c'est après 4 heures, est-ce que c'est tout simplement des coureurs de marathon qui sont lents et qui ont couru le marathon d'une traite, ou est-ce que c'est composé de coureurs qui sont rapides mais qui s'essoufflent rapidement et qui donc sont capables de courir que pendant 1 ou 2 km et ils doivent se reposer entre-temps. Donc en regardant le peloton, on ne peut pas se faire une idée des mécanismes ou de l'efficacité des coureurs. On ne peut pas connaître le pas non plus, on ne peut pas savoir est-ce que c'est des coureurs qui courent lentement et qui se reposent, ou est-ce que c'est des marcheurs, est-ce qu'ils ont parcouru le marathon à pied, en marchant ou en courant pendant cette course, pendant ces 4 heures qu'a duré leur trajet. Donc pour comprendre comment caractériser le coureur ou caractériser l'athlète qui participe à une telle épreuve, eh bien on voudra regarder l'athlète individuel, regarder quel est son enjambé, quel est son pas, regarder quelle distance il peut courir avant de s'essouffler, avant de devoir se reposer. Est-ce que c'est un coureur de marathon ou est-ce que c'est un coureur de 100 mètres ou du kilomètre ? Et puis on voudrait savoir quelle est son efficacité. Est-ce que c'est un amateur, ou est-ce que c'est un professionnel, ou est-ce que c'est un véritable athlète, quelle est sa consommation, par exemple, d'oxygène, au cas d'un coureur. Eh bien, la même chose se passe pour les molécules. Jusqu'à présent, la plupart des études qui ont été faites sur les molécules, sur tous ces moteurs donc, qui génèrent de l'énergie ou qui se déplacent sur les microtubules, toutes les études ont été faites sur des populations, sur un grand nombre de molécules, et on regardait un petit peu comment cet ensemble de molécules se déplaçait, comment cet ensemble de molécules consommait de l'énergie, combien d'énergie était consommée, d'ATP était consommée, etc. Et à partir de là, on essayait de comprendre comment la molécule marchait. Alors évidemment, ça, on arrivait à obtenir certaines informations. Ce n'est pas complètement aberrant d'utiliser une telle approche. Néanmoins, pour avoir une description précise du fonctionnement des molécules, mieux vaut les utiliser une à une. Parce qu'en regardant une molécule une à une, comme on regarde un coureur un à un, on peut savoir quelle est la vitesse réelle de la molécule, quel est réellement le taux d'utilisation d'ATP, ou la vitesse à laquelle la molécule va avancer sur son rail de microtubules, ou va dégrafer l'ADN, dans les deux exemples dont je vais vous parler. Quelle est la processivité de la molécule, sur quelle distance elle va courir, sur quelle distance elle va effectuer son travail, les kinésines, dont je vais vous revenir bientôt, sur quelle distance les kinésines vont-elles se déplacer sur les microtubules avant de décrocher, ou les hélicases de l'ADN, combien de brins vont-elles dégrafer avant de tomber de leur substrat. Donc on veut connaître la processivité, c'est quelque chose qui est très difficile, voire impossible à mesurer en volume. On veut connaître leur pas, quelle est la distance parcourue par une kinésine lors de consommation d'une molécule d'ATP, donc de combien une molécule avance-t-elle, une kinésine avance-t-elle sur son rail de microtubules ? Ou combien de bases une hélicase va-t-elle dégrafer dans l'ADN à chaque fois qu'elle consomme une molécule d'ATP ? Et on veut connaître l'efficacité. Combien de carburant d'ATP consomme-t-elle pour faire un pas ? Donc c'est ça, toutes ces données-là, et je vais y revenir, vous allez voir dans les exemples que je vais introduire, ces données-ci, on peut les avoir relativement facilement à partir de mesures sur une molécule, mais c'est très difficile de savoir, comme je vous ai montré précédemment sur l'exemple des coureurs, c'est très difficile de savoir quelle est la processivité d'une molécule quand on regarde un ensemble, quand on regarde le peloton, on ne peut pas savoir est-ce que les coureurs ont parcouru le marathon lentement ou est-ce qu'ils se sont reposés tous les 100 mètres. Donc ça, c'était une des motivations principales, peut-être la motivation essentielle, donc des gens qui regardent des molécules uniques. On a accès à des informations qui sont inaccessibles en regardant en volume, et on peut donc mieux comprendre les molécules et développer des meilleurs modèles de leur action. L'autre chose dont je voudrais vous attirer votre attention, c'est le fait que les moteurs moléculaires, ces enzymes qui utilisent l'énergie chimique pour effectuer un travail dans la cellule, ces moteurs moléculaires travaillent dans un environnement qui est très différent de l'environnement qu'on connaît, où nos moteurs travaillent. C'est très différent de l'environnement où le moteur d'une voiture, d'un train, d'un avion, etc. fonctionne. L'environnement dans lequel les moteurs moléculaires travaillent est un environnement où l'agitation thermique domine. Vous avez ici une image de petites billes. C'est une image tirée du laboratoire de Jeff Gelles aux États-Unis, à l'université de Brandeis. Vous avez des toutes petites billes qui font un petit peu moins d'un micron, 0,5 ou 0,3 micron, qui sont accrochées à une surface, la surface que vous voyez en gris, là par derrière, dans le fond. Donc les petites billes sont accrochées à la surface par des petites molécules d'ADN. Et le mouvement que vous voyez là, ce n'est pas un mouvement qui est dû à la vie. Ce mouvement des petites billes sur l'écran, il est spontané, il existe à cause des chocs thermiques. C'est un mouvement qu'avait remarqué Jean Perrin au début du siècle dernier, qui avait été analysé par Einstein, pour lequel Einstein avait reçu le prix Nobel. Il ne l'a pas reçu sur la relativité ni générale ni particulière, mais sur ça. Il a reçu le prix Nobel pour avoir compris que ce mouvement brownien était la démonstration de l'existence des atomes. Eh bien, à l'échelle moléculaire, les chocs dus aux atomes, dus à l'excitation qui est thermique, au mouvement perpétuel des atomes du milieu, eh bien, ces chocs-là prédominent. Et les moteurs moléculaires vont devoir travailler contre ces chocs. Et ces chocs sont considérables quand on essaie de les estimer. Vous avez ici, je vous donne ici un exemple, donc une bactérie qui fait de l'ordre d'un micron de taille, une bactérie va subir un choc équivalent à son poids chaque seconde. C'est un petit peu comme si je recevais chaque seconde un choc d'environ 80 kg. Donc dans un tel milieu, nous serions incapables de faire quoi que ce soit. Vous pouvez vous imaginer que mettre un moteur d'une voiture sous un choc équivalent au poids de la voiture chaque seconde, le moteur n'y résisterait pas. Donc les concepts, les manières de fonctionner des moteurs moléculaires vont être évidemment différents des manières de fonctionner des moteurs macroscopiques. Ce sont des moteurs qui vont fonctionner contre l'agitation thermique et qui même, d'une certaine manière, vont pouvoir utiliser l'agitation thermique, la biaiser en quelque sorte, pour que l'agitation thermique en fait, les pousse dans une certaine direction. Utiliser cette agitation pour se diriger. Donc, utiliser l'agitation pour se diriger, en quelque sorte, on a l'impression qu'on utilise le bruit pour effectuer un travail, qu'on va violer une loi de la thermodynamique. Eh bien non, en fait, je vous montrerai plus tard qu'en fait, pour biaiser le bruit, pour utiliser l'agitation thermique dans un but bien particulier d'effectuer un travail, on va devoir consommer de l'énergie et on ne va rien gagner de toute manière. Donc, la chose à retenir, essentielle, c'est que les moteurs moléculaires travaillent dans un milieu extrêmement bruyant, en recevant des chocs en permanence, et qu'ils doivent en permanence fonctionner contre ces chocs. Ça, c'est fondamental, et c'est ce qui fait la différence essentielle entre les moteurs macroscopiques déterministes, en quelque sorte, que nous connaissons, et les moteurs moléculaires, les moteurs qui travaillent à l'échelle de la molécule. Et aujourd'hui, quand on parle de nanotechnologie, j'y reviendrai tout à la fin, eh bien, il faut comprendre que si on essaie de concevoir de tels moteurs à une telle échelle, eh bien, ce sera contre le bruit thermique, contre l'agitation thermique, que ces moteurs-ci devront travailler. Et ils seront en permanence soumis à ces chocs. Donc les concepts, les manières de penser devront être différentes. Même si, comme vous allez le voir, de toute manière, on a toujours des petits modèles, toujours des idées par derrière qui sont des idées de choses qu'on connaît de la vie courante. Mais quand on va essayer de les analyser, il faudra tenir compte toujours de l'agitation thermique. Alors, pour ceux avec des connaissances un petit peu physiques, donc je vous rappelle que l'énergie associée au choc thermique est reliée à la température. plus la température sera élevée, plus les chocs seront élevés, et le quantum d'énergie thermique, en quelque sorte, c'est KT, K étant la constante de Boltzmann, et T la température. À température ambiante, cette énergie thermique, qui est l'énergie, donc le quantum d'énergie, le paquet d'énergie associé aux fluctuations thermiques dans la cellule, ou à l'échelle moléculaire, vaut 4×10⁻¹ joules, ou en unité plus proche de celle des gens qui étudient les moteurs moléculaires, 4 piconewton nanomètre. Le nanomètre étant la taille des molécules, le piconewton est la force caractéristique à cette échelle-là. Donc les caractéristiques des moteurs moléculaires, je viens de vous le dire, ce sont leur taille. Leur taille, c'est le nanomètre, quelques nanomètres, 5-10 nanomètres. Nanomètre, 1 milliardième de mètre, c'est 10 fois plus grand que l'angstrom. L'angstrom, c'est donc la taille d'un atome. Les molécules, surtout les molécules biologiques, sont composées de grands nombres d'atomes, plusieurs milliers. Donc leur taille est évidemment beaucoup plus grande, et typiquement la taille d'une molécule est entre 5 et 10 nanomètres. Donc ça, c'est la taille caractéristique, et c'est ce qui va déterminer aussi un petit peu tout ce que la molécule va faire. Son pas ne peut pas être beaucoup plus grand que le nanomètre. D'accord ? Le carburant, je vous l'ai déjà dit, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. C'est ce carburant qui est utilisé ou bien pour faire des réactions chimiques, ou bien pour faire un travail mécanique. L'efficacité de ces moteurs, je vais y revenir, mais très souvent, elle est proche de 100%. Elle est très grande, en général, 40, 50, des fois même 100%. Et l'énergie donc, que les moteurs vont utiliser pour lutter contre l'énergie thermique, donc pour effectuer leur travail contre les chocs thermiques qui agissent en permanence à cette échelle-là, eh bien, c'est donc l'énergie d'hydrolyse d'ATP, qui n'est pas si grande que ça quand on y pense. Elle ne vaut que 20 fois l'énergie thermique, elle vaut 20 kT. 20 kT, c'est 20 kT si, ce n'est que 20 fois l'énergie thermique. Donc, avec seulement 20 fois l'énergie thermique à leur disposition, les moteurs dans la cellule arrivent néanmoins à une efficacité très grande, puisque je vous ai dit qu'elle peut être proche de 100%. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait comprendre et qui reste encore assez mystérieux, qui n'est pas toujours compris, en tout cas, pas dans tous les systèmes étudiés. Alors, à partir d'une énergie caractéristique et d'une taille caractéristique, on peut construire une force caractéristique. La force, c'est l'énergie divisée par la taille. C'est tout simplement par analyse dimensionnelle. Donc, pour une énergie qui vaut 20 kT ou 8×10⁻¹ joules, comme vous le voyez ici, pour une taille qui vaut 5 à 10 nanomètres, eh bien, on peut construire une énergie caractéristique qui est de l'ordre de 10 piconewton. Donc ça, c'est l'énergie caractéristique à l'échelle de la molécule, 10 piconewton, 10⁻¹ newton. Okay, c'est typiquement le poids d'une bille de 10 microns. Une bactérie pèse à peu près un centième de ça, ou un centième ou un millième de ça. Le poids d'une cellule, à peu près un dixième de ça. Donc c'est grosso modo l'ordre de grandeur aux échelles moléculaires. La force qu'il faut pour arrêter une kinésine sur son rail, donc la molécule qui transporte, responsable du transport dans la cellule, est 7 piconewtons. La force qu'il faut pour dégrafer mécaniquement les deux brins de l'ADN, c'est une expérience qui a été faite à l'école normale par François Eslo et son groupe, eh bien cette force vaut entre 12 et 15 piconewtons. Donc le piconewton, 10⁻¹ newtons, c'est l'échelle des forces qui travaillent donc, dans la cellule, c'est la bonne dimension des forces. Si à notre échelle c'est le newton ou le kilogramme, eh bien, à l'échelle des molécules c'est 10 puissance 12 fois plus petit, 1000 milliards de fois plus petit. Alors les deux exemples dont je vais vous entretenir, donc, ce sont le transport d'abord, et le transport, pourquoi faire? Alors l'exemple caractéristique, c'est de ce petit poisson-là, la veuve noire. C'est un petit poisson qui vit dans l'Amazone, qui est un poisson d'eau douce et qui en fait est vendu aussi pour être dans des aquariums. Et ce petit poisson noir, quand il est soumis à un choc, quand il a peur, il peut changer de couleur. Donc les bandes noires que vous voyez ici peuvent devenir blanches. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de film qui le montrait directement sur le poisson. Mais vous pouvez sur Internet trouver des films qui ont été faits dans des laboratoires, ici le laboratoire de Borissi à Northwestern, où vous voyez la manière dont une cellule de ce poisson va réagir à un choc d'adrénaline. Donc, quand le poisson subit un choc d'adrénaline, eh bien, le pigment va être concentré de telle manière à ce que la cellule, qui ici est un peu grise avec des taches noires à l'extérieur, et c'est dispersion du pigment dans la cellule qui crée les bandes noires que vous voyez ici sur le poisson, eh bien, en présence d'adrénaline, vous voyez que le pigment est entraîné vers le centre et donc la cellule devient blanche, transparente. Okay, vous voyez qu'ici, la cellule, on ne la voit plus, elle est devenue transparente et tout le pigment était concentré au centre. Et la chose qui est intéressante de remarquer, c'est que ce pigment, vous le voyez bien, est transporté. Transporté, vous voyez, de manière radiale, de l'extérieur de la cellule vers le centre. Ce transport radial, eh bien, ce n'est pas un transport qui est au hasard, n'est-ce pas ? Ce transport, il est effectué par le fait qu'il soit radial, le fait qu'il soit dirigé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le dirige. Le quelque chose qui le dirige, ce sont ces rails, ce sont les microtubules qui, du noyau, se dirige de manière radiale vers l'extérieur de la cellule. Et ces pigments vont être transportés, ces pigments se trouvent dans des petites vésicules, et ces pigments vont être transportés le long des rails des microtubules par les kinésines, par les moteurs, jusqu'en leur centre. Et donc c'est ce transport-ci qui permet à la cellule de changer de couleur, ou au poisson, de passer inaperçu ou de plus montrer ces bandes noires qui sont tellement visibles. Alors, des chercheurs, en particulier Aurélien Roux, à l'Institut Curie, ont étudié, ou étudient encore, ces jours-ci, en fait, continuent à étudier, le transport de vésicules, ou le transport de petites billes, dans le cas particulier, par les kinésines sur les microtubules. Donc, l'idée, c'est de caractériser le transport d'un de ces moteurs, d'une de ces kinésines, caractériser, c'est-à-dire connaître la vitesse, connaître la processivité, sur quelle distance la molécule était capable de se déplacer sur le rail des microtubules avant de se décrocher, connaître son efficacité, connaître son pas. Les quatre paramètres dont je vous ai parlé initialement. Donc voici les expériences qu'ils font. Ils prennent des microtubules provenant de cellules, pas nécessairement les mêmes, d'autres cellules, nous avons tous des microtubules dans nos cellules. Donc ils prennent des microtubules, ils les déposent sur une lamelle de verre. Donc vous voyez ici, les traits fins que vous voyez là, ces traits fins sont des microtubules. Et sur ces microtubules, vous voyez des petits points blancs. Ces petits points blancs, ce sont des petites billes qui font un petit peu moins d'un micron aussi, genre 0,5 micron. Et ces petites billes, sur ces petites billes, ces chercheurs ont accroché une ou un faible nombre, en tout cas, de kinésines. De telle sorte que quand une de ces petites billes se déplace sur un rail des microtubules, elle se déplace par le fait que la kinésine, donc le moteur moléculaire qui est accroché, qui tient la bille au-dessus, cette kinésine va se déplacer sur le rail. Et donc ce que vous voyez, bon, la vitesse ici est beaucoup plus lente évidemment que ce que je vous ai montré là. La raison en est tout simple, c'est que les chercheurs ont ralenti le moteur pour pouvoir l'étudier en lui donnant moins d'ATP, moins de carburant. Donc en réduisant la quantité de carburant, on va ralentir le moteur, on va pouvoir l'étudier de manière beaucoup plus précise. En particulier, donc, on veut mesurer sa vitesse, mesurer la proximité, le pas, etc. Donc, je vais vous montrer les résultats d'un autre groupe sur l'étude de ce moteur. J'arrive à la prochaine transparent, voilà. Donc ça, c'est les résultats du groupe de Steve Block à Stanford, aux États-Unis, donc, qui a étudié ce moteur, la kinésine, qui se déplace sur les microtubules. Donc vous voyez ici une microtubule. Les microtubules ont une polarité, moins vers plus. Ça veut dire que c'est une espèce de flèche, une extrémité, ce qu'il a appelé pointue, et une extrémité dite barbue. C'est un rail qui n'est pas symétrique, c'est plutôt une crémaillère qu'un rail, et j'y reviendrai. Les kinésines vont se déplacer sur ce rail, et dans cette expérience-ci, eh bien, on utilise une pince optique. Une pince optique, c'est le point de focalisation d'un faisceau laser. Quand on focalise un faisceau laser à l'aide d'un objectif de microscope, on va créer un point focal, et dans ce point focal, des petites billes vont pouvoir être piégées et manipulées. C'est-à-dire qu'une petite bille va venir au point focal, elle ne va pas pouvoir quitter le point focal du laser. Donc quand on va bouger le faisceau laser, bouger le point de focalisation du faisceau laser, la petite bille va être déplacée. Et ça, c'est l'essentiel donc, de la pince optique. On utilise la pression de radiation générée par la focalisation du faisceau laser au point focal pour piéger des billes. Donc on peut les manipuler. Si on garde le faisceau fixe, eh bien, quand les billes vont être déplacées par des kinésines dans ce cas-là, eh bien, il va falloir exercer une force contre le piège optique, contre le piège généré par le faisceau laser. Et donc on va pouvoir mesurer la force contre laquelle la kinésine va pouvoir travailler, donc la force exercée par la kinésine contre le piège du faisceau laser. On va pouvoir suivre aussi le déplacement de la kinésine en mesurant le déplacement de la bille de sa position d'équilibre. Donc vous avez ici le temps dans l'axe des X, vous avez la position de la bille dans l'axe des Y, et ce que vous voyez là, c'est la position de la bille en fonction du temps. Alors vous voyez que c'est assez chahuté d'abord, ça c'est dû au mouvement, au choc de moléculaires qui, comme je vous ai dit, sont toujours présents à cette échelle-ci. Donc vous avez une trace qui n'est pas très lisse, qui est bruitée. Mais ce que vous pouvez voir, en fait, c'est que cette trace, il y a des paliers. Ici, là, là, là. Vous avez des paliers sur cette trace. Ces paliers correspondent au pas de la kinésine. Chaque fois que la kinésine fait un pas, elle se déplace d'une certaine distance, d'une distance fixe, correspondant au pas. Et ce déplacement d'une distance fixe correspond au palier que vous voyez ici, dans la position de la bille, par rapport en fonction du temps. Donc à partir de l'étude des paliers de position, donc chaque fois que l'enzyme se déplace, chaque fois que la kinésine se déplace d'un truc, la bille se déplace de manière similaire, et en mesurant la position de la bille, eh bien, on peut connaître le pas de l'enzyme, chaque palier correspond à un pas de l'enzyme. Ceci a été fait donc pour la kinésine, le pas vaut 8 nanomètres, on peut mesurer la vitesse maximale à concentration maximale d'ATP, donc de carburant, quand on n'essaie pas de restreindre la vitesse en restreignant la quantité de carburant qu'on lui donne, et la vitesse est assez grande, 120 pas par seconde. La processivité aussi est très grande, 450 pas. Alors 450 pas, ça veut dire que l'enzyme est capable de se déplacer sur des distances microscopiques, de plusieurs microns. C'est énorme pour une molécule qui fait quelques nanomètres, je vous ai dit 10 nanomètres. Et son efficacité est très grande, plus grande que 40%. Estimer les efficacités au niveau d'une molécule, c'est relativement difficile. Alors là, vous voyez, à partir donc, de ces données-là, un petit modèle qui a été proposé par un laboratoire anglais, enfin, l'animation en tout cas de ce laboratoire-ci. Et dans cette animation, en fait, ce que vous voyez, c'est le modèle le plus simple de la kinésine, qui est tiré des données structurales. Donc on sait que la kinésine consiste en deux unités, les pieds, qui peuvent s'accrocher aux rails des microtubules qui sont ici schématisés. Donc vous avez les pieds qui peuvent s'accrocher aux rails des microtubules. Vous avez deux hélices alpha qui s'entortillent l'une autour de l'autre et qui vont se connecter aux petites vésicules ou aux petites billes que l'on transporte dans ces expériences. Et la manière la plus simple de décrire le transport, c'est la manière dont je vous ai décrit précédemment, c'est le marcheur, l'enzyme se déplace sur son rail. Eh bien, dans cet exemple-ci, c'est peut-être la manière la plus simple, mais elle ne fait pas intervenir le bruit thermique, elle ne fait pas intervenir la force principale qui va contrecarrer l'action de cette molécule. C'est pourquoi ce modèle-là, bien qu'il soit simple, n'est pas nécessairement le bon modèle, puisque ce modèle-là est un modèle tiré de notre expérience journalière, mais qui ne fait pas intervenir justement la raison principale ou la cause principale qui va limiter ces molécules dans la cellule. Alors, un modèle peut-être plus raisonnable, en tout cas un concept nouveau qui a été introduit par des chercheurs, en particulier Jacques Proulx à l'Institut Curie, c'est le modèle dit de la crémaillère thermique, dans lequel en fait la molécule schématisée ici par ce petit point rouge, donc la molécule, le petit point rouge que vous voyez ici, c'est la kinésine. Et cette kinésine, dans ce modèle-ci, en fait, utilise le bruit thermique pour avancer. Et c'est ça le concept nouveau. Comment est-ce que la molécule va biaiser les chocs thermiques de telle manière à avancer. Et l'idée est assez astucieuse. L'idée, c'est que la molécule est accrochée très fortement sur le substrat. Et puis, de temps en temps, elle lève le pied. Et ce pied qu'elle lève va être soumis à des chocs thermiques. Ce que vous voyez ici quand la molécule passe en haut. Le pied, quand il est en haut, est soumis à des chocs thermiques. Et les chocs thermiques dus à l'agitation des molécules tout autour vont biaiser, vont faire en sorte que le pied, quand il va retomber, peut retomber un pas plus loin sur un autre point d'ancrage sur la microtubule. Et puis l'autre pied va avancer, la même chose, l'autre pied va être soumis au choc thermique, et puis lui aussi va avancer d'un pas, etc. Donc dans ce petit modèle de la crémaillère thermique, l'asymétrie du rail est utilisée avec l'utilisation d'énergie pour lever le pied, se décrocher du rail à chaque fois, nécessite de l'énergie, d'énergie de l'ATP. Il va falloir se décrocher du rail. Et une fois qu'on est décroché du rail, eh bien on va utiliser l'agitation thermique pour avancer. Ce concept nouveau pour expliquer les moteurs moléculaires est très riche, il est très général, et c'est ce qui fait sa force, et ce qui fait qu'en fait on peut l'appliquer, l'utiliser sur un très grand nombre de systèmes différents. Donc c'est le cas que je vous montre ici, c'est le cas de la kinésine. Ce petit modèle-ci, cette simulation, est une simulation numérique due à nos étudiants, Gilles Chervin, à partir d'un modèle donc développé par Jacques Pro à l'Institut Curie. Et on voit qu'effectivement, en fonction du temps, eh bien, la position augmente tout le temps et on peut même voir certains paliers. Et la chose importante à remarquer, c'est que la progression n'est évidemment pas déterministe, elle est évidemment chahutée puisqu'elle est entraînée par le bruit thermique qui agit sur la molécule elle-même. Donc, tout ça, c'était jusqu'à présent, je vous ai parlé de la kinésine. Et maintenant, j'aimerais vous entretenir, dans les quelques minutes qui restent, plus grand-chose, donc des hélicases. Alors d'abord, les hélicases, ce sont des enzymes qui vont ouvrir les deux brins de la molécule d'ADN. Alors, première chose, qu'est-ce que la molécule d'ADN? Eh bien, la molécule d'ADN est formée de deux brins. C'est une double hélice, suivant le fameux modèle de Watson et Crick. Donc deux brins qui sont embriqués les uns dans les autres, qui forment une échelle avec des paliers. Les paliers, ce sont les bases de l'ADN, adénine, guanine, cytosine, thymine. Ces bases, ce sont elles qui vont coder, qui codent l'information génétique. Donc un gène, c'est une suite de ces lettres, adénine, guanine, cytosine, thymine, ATGC. Cette suite d'aides définit donc un code, définit une information qui va être utilisée par la cellule pour produire des protéines. Il faut donc lire ce code. Le premier rôle de la cellule va être de lire ce code qui est enfoui dans l'hélice, qui est au centre de l'hélice, non pas exposé en solution. Ce qui est exposé, c'est le squelette ribose-phosphate, un ribose et un phosphate qui est exposé en solution, et les bases, l'information génétique est enfouie, est inconnue à l'intérieur de la molécule. Il va donc falloir l'ouvrir, cette molécule, pour la lire. Il va falloir aussi l'ouvrir quand on va recopier la molécule d'ADN, comme ce qui se passe juste avant la division cellulaire. Et les enzymes qui sont responsables du dégraphage de la molécule d'ADN, comme cette agrafeuse-ci, comme la glycière ici, eh bien, vont ouvrir la molécule d'ADN, vont libérer les deux brins pour que d'autres enzymes ensuite viennent par derrière pour faire d'autres choses sur ces brins, les réparer, les recopier, etc. Donc, les hélicases dont je vais vous parler, ce sont des moteurs moléculaires qui ouvrent la double hélice d'ADN comme une fermeture éclair. Alors, l'autre chose importante à propos de l'ADN, donc, c'est d'une part donc, deux brins. Ces deux brins sont disposés tête-bêche. Ces deux brins, comme les microtubules qui ont une directionnalité, ces deux brins ont aussi une directionnalité. Ils vont de ce qu'on appelle une extrémité 5', qui est l'extrémité avec le phosphate, ici, vous avez un phosphate, vers l'extrémité 3', où il n'y a pas de phosphate, il y a un groupement OH. Et donc, il y a un brin qui est dirigé dans cette direction et l'autre brin est dirigé dans l'autre direction. Ça, c'est important parce que les moteurs qui vont se déplacer sur la molécule d'ADN peuvent se déplacer dans une direction, sur un brin dans une direction, plutôt que dans les deux directions. Les brins ont une certaine direction, les moteurs ou les enzymes qui vont se déplacer sur les brins peuvent se déplacer dans une direction privilégiée plutôt qu'une autre. Alors, où est-ce qu'on rencontre ces hélicases? Il y a les hélicases, c'est un grand ensemble, c'est une famille de protéines, un peu comme les voitures, vous avez des Rolls-Royce, vous avez des Peugeot, vous avez des deux chevaux. Chacune a son rôle bien particulier. Pour les hélicases, vous avez des hélicases qui sont impliquées dans la réplication de l'ADN. Vous avez des hélicases qui sont impliquées dans la réparation de la molécule d'ADN, dans la recombinaison génétique, etc. Donc le cas particulier ici que je vous montre, c'est le cas de la réplication. Donc vous avez une hélicase, ce ne sont pas une hélicase qu'on a étudiée, une autre. Donc cette hélicase-ci ouvre les deux brins de la molécule d'ADN, exactement comme la glycière ici. Donc on va ouvrir les deux brins de la molécule d'ADN. Et puis, une fois que les deux brins de la molécule d'ADN sont ouverts, sont dégrafés, d'autres protéines peuvent venir sur chacun des brins et resynthétiser le brin complémentaire. Donc ça, c'est le rôle essentiel des ADN polymérases qui vont resynthétiser le brin complémentaire sur chaque brin de molécule d'ADN, et ce qui va permettre à partir d'une molécule d'ADN, d'un chromosome, d'en générer deux, ce qui est évidemment nécessaire avant la division cellulaire, quand le patrimoine génétique va se diviser de manière équitable entre chacune des cellules filles. Donc, les hélicases sont absolument nécessaires à ce procédé parce que sans elles, les deux brins ne sont pas dégrafés et les polymérases qui travaillent par derrière ne peuvent pas répliquer. Donc, un rôle essentiel des hélicases durant la réplication, un rôle essentiel des hélicases aussi dans la réparation des erreurs génétiques, des erreurs sur l'ADN. L'ADN, comme je vous ai dit, est en permanence soumis à des attaques du milieu. Les radiations UV, par exemple, une des hélicases qu'on a étudiées est impliquée dans les mécanismes de réparation dues aux radiations UV sur l'ADN. Cette hélicase, une autre hélicase que nous avons étudiée, REC-Q, est impliquée dans certaines maladies génétiques, c'est-à-dire qu'elle n'est pas impliquée elle-même. Des mutations de cette hélicase donne naissance à certaines maladies génétiques, à certains syndromes, heureusement relativement rares, tels que le syndrome de Werner, qui est le symptôme clinique est un vieillissement prématuré. Vous voyez ici une jeune fille japonaise qui ici a 18 ans et qui ici on a 48. Donc 30 ans plus tard. À cause de cette mutation dans REC-Q qui a donné lieu à un grand nombre de mutations dans le message génétique, les cellules ont vieilli beaucoup prématurément, ses cheveux sont devenus blancs très tôt, elle a eu de la cataracte vers 35-40 ans, elle est malade d'ostéoporose, athérosclérose, etc. Donc c'est un défaut dans ce gène-là peut être catastrophique pour l'individu. Un autre défaut dans cette hélicase entraîne une incidence beaucoup plus élevée de cancer, d'instabilité génétique, etc., et donne lieu au syndrome dit de Bloom. Alors, le système que nous avons utilisé pour étudier cette hélicase, c'est le piège magnétique. Le piège magnétique constitue en une petite bille magnétique accrochée à la surface par la molécule d'ADN que l'on veut étudier ou dont on veut utiliser ses interactions avec les protéines, les hélicases dans notre cas particulier. Donc, vous avez une bille magnétique ancré à une surface par une molécule d'ADN. Le tout se trouve dans un capillaire, donc la surface est la surface d'un capillaire carré pour qu'on puisse voir à travers. Ce capillaire est disposé sur un microscope. Et on regarde les petites billes magnétiques à l'aide d'une caméra reliée à un ordinateur. Donc l'ADN, on ne le voit évidemment pas, il est trop fin, trop petit pour qu'on puisse le voir. Ce qu'on voit, c'est la bille. Et on voit la bille accrochée, on voit que la bille est accrochée à la molécule d'ADN parce que quand on approche des aimants au-dessus de notre échantillon, eh bien les aimants vont tirer sur la bille magnétique et vont exercer une force. Cette force sera d'autant plus grande que les aimants seront plus près. Et ce qu'on va voir, c'est que la bille, au lieu de quitter la surface et être attirée par les aimants, sortir du champ de vision, eh bien cette bille va rester dans le champ de vision, va rester à une certaine distance de la surface parce qu'elle est accrochée à la surface par cette laisse qui est la molécule d'ADN. Et en fait, on peut mesurer la force avec laquelle la bille est attirée par le champ magnétique, par les aimants, tout simplement en regardant les fluctuations de la bille. Comme la bille est attirée à la surface par une laisse, cette laisse d'ADN, plus la laisse sera tendue et plus petites seront les fluctuations de la bille. Par contre, et donc plus grande sera la force. Donc plus petites les fluctuations de la bille, plus la laisse, plus la molécule d'ADN est tirée fortement, et plus grande sera la force. Donc, à l'inverse, plus grandes seront les fluctuations de la bille, plus la laisse sera lâche et donnera du mou en quelque sorte à la bille, et plus faibles seront les fluctuations. Et en fait, on peut montrer, en utilisant un théorème de physique appelé le théorème d'équipartition, que la force est directement proportionnelle à l'extension de la molécule et inversement proportionnelle au carré des fluctuations. Donc comme je vous l'ai dit, plus les fluctuations sont grandes, plus faible est la force. Plus les fluctuations sont faibles, plus grande est la force. D'accord ? Donc on peut, en regardant la bille, en regardant les fluctuations de la bille, en mesurant la distance de la bille à la surface, on se focalise sur la surface puis sur la bille, donc on connaît la distance de la bille à la surface, on peut mesurer la force et l'extension de la molécule. Et c'est la première chose que nous faisons, nous mesurons la force et l'extension de la molécule. Pour une molécule d'ADN double brin, la molécule d'ADN que je vous ai montrée au début, les deux brins qui sont entortillés l'une autour de l'autre, c'est ce que vous voyez ici en bleu. Et puis, on mesure la même chose pour une molécule d'ADN simple brin, un seul brin qui serait étiré par la force. Vous voyez qu'effectivement, les courbes sont très différentes. En particulier, on voit qu'à force suffisamment grande, eh bien, le brin d'ADN, le simple brin d'ADN, un seul des brins de la molécule, quand on tire dessus, eh bien, il est plus souple, il est moins rigide, il va donc s'étirer beaucoup plus. Et on va utiliser ce changement d'extension, cette différence d'extension entre l'ADN simple brin et l'ADN double brin pour suivre en temps réel, à la cadence de la caméra, suivre en temps réel l'avancée d'une hélicase. Donc, l'expérience est ici schématisée. Donc, nous avons notre ADN double brin accroché par une petite bille à la surface. Cet ADN possède une petite cassure qui va permettre à l'hélicase, ici schématisée en triangle bleu, de rentrer dans la molécule et de dégrafer les deux brins, d'ouvrir la molécule d'ADN au fur et à mesure qu'elle progresse. Comme le simple brin qui se trouve ici se trouve sous tension, eh bien, il va être étiré, et étiré plus que l'ADN double brin qui se trouvait précédemment, et donc il va y avoir un changement d'extension de l'extension de la bille ici. La bille va maintenant s'éloigner du sol. Donc on va observer un accroissement de la distance entre la bille et le sol qui est dû au fait que l'ADN a été dégrafé. Et plus rapide sera cet accroissement de l'extension avec le temps, plus rapide sera la vitesse de l'hélicase de dégrafage de la molécule. L'autre avantage de la traction sur la molécule, c'est qu'elle empêche le réagrafage des deux brins, de ce brin-ci libre, avec le brin sous traction par derrière l'hélicase, qui est un des problèmes qui arrive dans les expériences sur grand nombre de molécules, mais je ne vais pas m'y attarder. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on observe les phénomènes suivants. Voici donc une expérience typique faite par Marie-Noëlle Dessinges au laboratoire. Donc, vous voyez l'extension fixe, et puis tout d'un coup, une molécule, une hélicase, est rentrée dans la molécule et l'a ouverte. L'extension croît, et puis tout d'un coup, l'hélicase tombe de son substrat, se décroche de la molécule, et à ce moment-là, les deux brins qui ont été ouverts par la glycière, eh bien, ces deux brins se referment spontanément parce que l'ADN double brin est plus stable que l'ADN simple brin. Donc les deux brins ont tendance, veulent se réhybrider spontanément et se reformer l'ADN double brin. Donc vous avez ici ouverture, dégrafage de l'ADN par l'enzyme, par l'hélicase, suivi d'une refermeture instantanée des deux brins une fois que l'enzyme a quitté son substrat. Et on observe, en attendant, donc en diluant suffisamment l'enzyme, on va observer des événements, des bouffées d'ouverture suivies de refermeture brusque, des bouffées relativement espacées. Chaque fois qu'une enzyme rentre dans l'ADN, elle ouvre, dégrafe l'ADN, on observe ce dégrafage. Et ensuite, il y a réagrafage spontané des deux brins une fois que l'enzyme est tombée. Et ce qu'on peut mesurer directement de ces expériences, c'est la vitesse de l'enzyme. Ce n'est rien d'autre que le nombre, la pente de cette bouffée, le nombre de l'extension en fonction du temps qui était donc ouverte ici. On peut mesurer le nombre de bases, la processivité de l'enzyme, combien de bases sont dégrafées par la molécule d'ADN, par l'hélicase, durant une bouffée d'activité. C'est la taille de cette bouffée. On sait par exemple qu'une base ouverte équivaut à 0,13 nanomètre de différence d'extension. Donc quand on observe une certaine différence d'extension, on divise par 0,13 et on sait exactement le nombre de bases qui ont été ouvertes par l'hélicase durant une bouffée d'extension. Et on peut observer le temps où l'hélicase est restée sur la molécule d'ADN. Et en fait, on peut aussi, mais ça je n'ai pas le temps d'en discuter, à travers l'analyse du bruit, des fluctuations du signal d'ouverture, déduire la taille du pas de l'hélicase. Combien de bases sont dégrafées par l'hélicase à chaque consommation de carburant de molécules d'ATP. Donc, ceci, c'est une expérience faite avec une molécule qui vient, qui ouvre, dégrafe, qui tombe, une autre molécule qui vient, qui ouvre, dégrafe, qui tombe, etc. Quand on va augmenter la concentration en hélicase, eh bien, ces bouffées vont se rapprocher, vont devenir de plus en plus denses, et vont finir par se superposer, et c'est le signal que vous observez ici. Au prochain. Voilà. Donc ce que vous voyez ici, c'est une expérience maintenant, non pas à faible concentration d'hélicase, mais à grande concentration d'hélicase, comme on aurait l'impression d'observer quand on fait une expérience en volume sur un grand nombre de molécules d'hélicase. Et ce que vous voyez, c'est que maintenant les bouffées ne sont plus séparées, elles sont quasiment continues, il y en a une qui vient dans l'autre. Mais la chose importante à remarquer, c'est que en moyenne, la moyenne d'ouverture, la vitesse moyenne d'ouverture de la molécule d'ADN est donnée ici par la courbe, par la ligne rouge. Si vous regardez au bout d'un certain temps combien de bases de l'ADN en moyenne ont été ouvertes, eh bien, du fait que, le fait que l'enzyme travaille par bouffée d'ouverture suivie de rapide réagrafage des deux brins, eh bien, la vitesse instantanée de l'enzyme sera évidemment très différente de la vitesse moyenne d'ouverture de l'ADN. Puisque la vitesse moyenne, cette ligne rouge-ci, c'est, si vous voulez, le nombre de bases ouvertes après un temps, c'est environ 100 secondes. Okay. Par contre, instantanément, vous voyez que le nombre de bases ouvertes, c'est la pente, cette pente-ci, qui est évidemment beaucoup plus forte, la vitesse beaucoup plus grande, instantanément, qu'en moyenne, parce que les enzymes courent, ouvrent l'ADN pendant un certain temps, puis hop, se reposent. Une autre arrive, ouvre, elle quitte, elle se repose, etc. Donc, comme dans l'exemple initial des coureurs de marathon, on n'a pas affaire à un coureur qui fait le marathon pendant 42 km, une enzyme qui ouvre tout en temps la molécule d'ADN, mais à différentes enzymes qui ouvrent, quittent, etc. Et la vitesse moyenne qu'on va mesurer sur la population sera évidemment différente de la vitesse instantanée mesurée sur une hélicase. Alors, à partir de ça, eh bien, on peut, pour l'hélicase UVRD, donc c'est cette fameuse hélicase qui répare les dommages de l'ADN dus aux radiations UV, eh bien, cette hélicase se déplace, on le savait déjà avant nos mesures, de l'extension de 3 primes en 5 primes sur un brin, donc le brin a une certaine directionnalité. Et le modèle qui semble mieux décrire l'avancée de cette hélicase, c'est le modèle de la chenille, encore une simulation ici due à Gilles Charvin. Donc la taille du pas de l'hélicase est d'environ 5 bases, ce qui correspond à une demi-période. Donc ça, c'est une demi-période. La vitesse maximale de l'enzyme, donc de l'hélicase, du dégraphage, est de 250 bases par seconde. Ceci est une vitesse raisonnable parce qu'on sait que par ailleurs, les molécules comme les ADN polymérases qui vont travailler derrière, comme je vous l'ai dit, pour synthétiser l'autre brin ou réparer, etc., ont une vitesse tout à fait similaire à celle-ci. Et la processivité de cette enzyme est aussi relativement grande, de l'ordre de 500 bases, ce qui est aussi raisonnable avec la taille des régions qu'elle est censée réparer dans la molécule d'ADN qui était connue précédemment. Donc le modèle que vous voyez ici pour cette enzyme, c'est le modèle dit de la chenille ou du chasse-neige. La molécule avance comme une chenille et elle repousse les deux brins qui se trouvent par devant. Donc elle avance sur un brin dans une seule direction et elle repousse l'autre brin, elle le dégrade de cette manière-ci. Et on s'est aperçu en fait que ce modèle-ci avait comme conséquence que l'enzyme peut se tromper. Et elle peut, comme je vous dis que les brins ont une certaine directionnalité, l'enzyme peut avancer sur un brin dans une certaine direction et tout d'un coup passer sur l'autre brin et avancer dans l'autre direction puisque les brins sont orientés tête-bêche. Donc elle peut passer d'un brin orienté tête-bêche en allant vers l'avant et en dégrafant la molécule, en passant sur l'autre brin qu'elle venait de dégrafer et en allant maintenant dans la direction opposée à la direction où elle commençait. Et donc au lieu d'agrafer les brins, elle va laisser les brins spontanément se réagrafer par derrière. Et c'est exactement ce que vous voyez ici dans cette expérience. La molécule, donc l'ADN ici était double brin. Ici, l'hélicase ouvre, dégrafe la molécule d'ADN, donc l'extension croît. Et puis là, elle change de direction. Et en avançant sur l'autre brin, permet à la molécule d'ADN de se réagrafer par derrière. Donc le réagrafage, la décroissance de l'extension due au fait qu'on passe de l'ADN simple brin à de l'ADN double brin, ce réagrafage se fait lentement et non pas brusquement comme précédemment, il se fait lentement et en fait à une vitesse qui est limitée par l'ATP, limitée par le carburant qu'on donne à l'enzyme. Le fait que cette vitesse soit dépendante de l'ATP, qu'elle dépend du carburant, veut dire qu'elle est liée à l'avancée de l'enzyme. Donc vous voyez que cette enzyme-ci, elle travaille comme une petite chenille qui peut passer d'un brin et repousser l'autre dessus. Des fois, elle peut se tromper, passer sous l'autre brin et avancer dans la mauvaise direction. Encore une raison pour laquelle des choses qu'on peut voir en molécule, sur une molécule, on évidemment ne les verra pas sur un ensemble de molécules où une partie des molécules avanceront dans la bonne direction, une autre ira dans la mauvaise direction et une troisième tombera de la molécule d'ADN. Donc pour conclure, je vous ai montré deux exemples, les kinésines et les hélicases. Je vous ai montré pour ces deux exemples que les mesures sur molécules uniques donnaient accès à des paramètres qui sont inaccessibles sur une mesure d'ensemble, le pas du moteur moléculaire, donc 8 nanomètres pour la kinésine, 5 bases dégrafées pour les hélicases, la processivité, environ 500 pas pour la kinésine, environ 250 bases pour les hélicases. On a vu, chose que je n'ai pas eu le temps de mentionner, c'est qu'en fait, on peut, en contrôlant la force sur l'enzyme, varier donc la charge sur le moteur, et donc étudier comment le moteur travaille quand il est chargé, quand il doit effectuer son travail contre une force. C'est quelque chose qui permet d'apprendre beaucoup sur les mécanismes qui sous-tendent l'avancée du moteur. Je vous ai montré que les vitesses des réactions enzymatiques en volume peuvent être très différentes de celles qui sont mesurées sur molécule unique. Je vous ai expliqué pourquoi. Et finalement, je vous ai montré différents modèles qu'on peut utiliser pour expliquer nos données. Ces modèles permettent donc d'expliquer de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus détaillée, la manière dont aussi bien la kinésine que les hélicases avancent sur leur substrat. Et en particulier, elles font appel à de nouveaux concepts, comme par exemple le concept de la crémaillère thermique, qui est essentiel pour comprendre l'avancée, par exemple, d'une enzyme comme la kinésine. Bon, quelles sont les perspectives ? Eh bien, d'abord, je vous ai parlé d'études de molécules simples. La kinésine, une kinésine. L'hélicase, une hélicase. Eh bien, dans la cellule, ces enzymes-là, en général, participent à un complexe, comme par exemple le complexe de réplication dont je vous ai parlé précédemment. Il y a l'hélicase qui ouvre, mais il y a les polymérases qui arrivent par derrière pour recopier la molécule d'ADN. Il y a d'autres enzymes qui vont stabiliser les brins, etc. Et donc, une des possibilités à continuer, c'est de comprendre la manière dont ces complexes de machines travaillent ensemble, comment elles sont couplées, comment elles vont modifier les paramètres d'avancée, de pas, etc. Efficacité. L'autre chose auquel personne n'a encore réellement eu le temps de s'attarder, mais qui est nécessaire aussi, c'est que toutes ces enzymes sont essentielles à la cellule, et certaines d'entre elles sont la cible de certains médicaments. Alors, une enzyme dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, c'est les topoisomérases, qui sont une enzyme responsable du désenchevêtrement de l'ADN dans la cellule. C'est une enzyme qui enlève les nœuds dans l'ADN, et ces topoisomérases permettent aux pelotes d'ADN dans le noyau de se séparer librement pour se diviser dans les deux cellules filles. Eh bien, ces topoisomérases, quand on les bloque, eh bien, on bloque la division cellulaire, les chromosomes sont déchiquetés et les deux cellules filles meurent. Donc, les topoisomérases sont une cible majeure des médicaments anticancéreux. Quand on bloque les topoisomérases, on tue la division cellulaire, donc toutes les cellules qui se divisent rapidement, comme les cellules cancéreuses, meurent. Et donc, comprendre comment les médicaments agissent au niveau de la topoisomérase pour la bloquer, ou comment développer de meilleurs médicaments pour les bloquer, est un enjeu important. Bon, il reste à développer des moyens d'observer ces molécules in vivo. Tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, c'est des expériences in vitro dans des tubes à essai très simples, très contrôlés, très éloignés de la manière dont c'est réellement imbriqué dans la cellule. Donc il reste à développer des moyens d'aller étudier ces molécules dans la cellule elle-même. C'est actuellement en cours de développement. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits dans le développement de nouvelles sondes fluorescentes. Et puis, il commence à y avoir des applications de ces concepts à l'étude, l'application à la nanotechnologie. Je vous ai montré ici un exemple typique du groupe de Montemagno à Cornell. Ce groupe a pris une molécule qui est un moteur rotatif. Ils l'ont couplé à une petite barre de silice, que vous voyez ici, par des techniques de lithographie habituelles en microélectronique. Et puis en ajoutant de l'ATP, ils ont vu ces petites barres tourner. Donc on peut utiliser la biologie pour faire des petits moteurs à l'échelle moléculaire. Bon, dans ce cas-là, on fait un petit hélicoptère. Ne me demandez pas quelle est son utilité. Pour le moment, c'était juste montrer qu'on pouvait faire certaines choses en couplant la biologie avec la microélectronique. Et je vous remercie de votre attention.
Vous avez montré qu'on pouvait étudier des systèmes in vitro, c'est-à-dire isolés finalement de leur environnement réel. Et alors, les études in vivo, c'est-à-dire des systèmes qu'on réintégrerait dans leur milieu réel, dans leur contexte réel, qui est forcément très complexe. Est-ce que c'est possible ou est-ce que des études... comment s'est développé sur ces questions d'études, de systèmes, de moteurs in vivo, si vous voulez. Oui, donc ne pas les isoler, évidemment c'est plus facile de les isoler, c'est bien entendu, quoi, mais que se passe-t-il in vivo finalement?
Oui. C'est une bonne question, évidemment. Jusqu'à présent, toutes les études ont été faites in vitro, ou comme vous le dites, c'est plus facile à étudier, en tout cas c'est plus facile à caractériser. Pour les étudier in vivo, actuellement ce qui est essentiellement développé, ce sont ce qu'on appelle des sondes fluorescentes, c'est-à-dire des molécules qu'on va fixer sur les moteurs pour les voir, et voir comment les moteurs se déplacent ou comment les moteurs interagissent avec d'autres protéines. Donc l'essentiel des travaux actuellement développés in vivo, ce ne sont pas tellement des travaux sur la manipulation, parce que pour manipuler, il faudrait introduire dans la cellule des objets. Vous avez vu que dans toutes les expériences que je vous montre, on ne manipule pas directement la protéine, on l'accroche à quelque chose de gros, une bille, qu'on va manipuler. Et c'est la bille qu'on manipule qui permet de manipuler, la protéine. Donc manipuler dans la cellule, je ne vois pas exactement comment on peut le faire. Mais ce qu'on peut faire et ce que les gens ont fait jusqu'à présent, commencent à faire, c'est de marquer la protéine avec des sondes fluorescentes ou ce qu'on appelle faire des fusions de protéines entre une protéine et une protéine fluorescente. On a trouvé il y a quelques années une protéine qui fluoresce naturellement. Donc on fait ce qu'on appelle une fusion de protéines. On fusionne le gène de la protéine d'intérêt avec le gène d'une protéine qui fluoresce dans le verre, par exemple. Et bien la protéine qui est exprimée va remplir la fonction de la protéine d'intérêt et va en même temps émettre un signal de fluorescence verte qu'on va pouvoir suivre. Et donc on va pouvoir voir où cette protéine est localisée dans la cellule, avec quelles autres protéines interagissent, comment elle se déplace dans la cellule, etc. Donc c'est surtout sur des méthodes de visualisation que les gens travaillent actuellement, plus que manipulation.
Quelle est la nature de la fixation de vos enzymes, la kinésine ou l'hélicase, sur son substrat? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, lorsqu'il y a fixation, comment est-ce que ça fonctionne? Quel est exactement le mécanisme? Et puis, quelle technique vous utilisez pour isoler une molécule, et puis ensuite pour l'étudier et pour la faire bouger sur son substrat?
C'est une question aussi très intéressante. Dans notre cas, les hélicases sont libres en solution. On tire sur la molécule d'ADN, on laisse l'hélicase venir sur l'ADN et l'ouvrir. Donc l'hélicase n'est pas accrochée à une surface. Et là, effectivement, il y a un problème important qui est comment le fait d'accrocher une molécule qui est toute petite, elle fait 10 nanomètres, à une surface, même si c'est une bille d'un micron. Une bille d'un micron par rapport à une molécule de 10 nanomètres, c'est quand même quelque chose qui est 100 fois plus grand. Donc comment le fait d'accrocher une molécule à une surface, comment est-ce que ça va modifier son activité? Et c'est une question tout à fait pertinente et pas toujours évidente à répondre. Est-ce que le fait d'accrocher la molécule à une surface va totalement modifier l'activité, la manière de fonctionner de l'enzyme, de telle manière à ce que c'est pas du tout, on va observer quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas ce que l'enzyme fait réellement dans la cellule, dans un milieu où elle n'est pas accrochée à ces énormes billes d'un micron. Donc c'est une question en particulier qui est tout à fait pertinente pour les études sur les kinésines, qui sont donc les molécules qui se baladent sur les microtubules en entraînant ces grosses billes derrière elles. Alors la manière, on essaye de les accrocher de la manière la plus douce possible. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on recouvre les microbilles avec une autre protéine qui va empêcher en quelque sorte l'absorption des kinésines sur les billes, donc un ancrage non spécifique trop fort et pas contrôlé. Donc on les recouvre de protéines. En général, ce sont des streptavidines qui sont des protéines qui permettent d'accrocher de manière très spécifique les kinésines, si celles-ci ont été elles-mêmes modifiées par l'ajout d'un autre groupe appelé biotine. Donc on essaye en tout cas d'arriver à un accrochage le mieux contrôlé possible, le plus souple, le moins non spécifique possible, pour qu'effectivement l'activité de l'enzyme ne soit pas modifiée par le fait qu'elle soit accrochée à une surface. Et on essaye de le vérifier en vérifiant par exemple est-ce que l'hydrolyse de l'ATP reste la même. Est-ce que l'enzyme est capable de travailler de la même manière sur quelque chose qu'on peut mesurer aussi bien en volume que sur des billes accrochées à des billes? Et de cette manière-ci, on essaie de faire en sorte que l'ancrage soit vraiment pas perturbant. Mais c'est toujours une question quand on accroche des protéines sur des surfaces, est-ce qu'on les perturbe trop?
Oui, je voudrais savoir comment la molécule utilise l'énergie de l'ATP.
Pardon?
C'est-à-dire... Vous dites l'énergie comme un coureur de la molécule comme un coureur de marathon utilise l'énergie fournie par l'ATP, mais je voudrais savoir par quel biais.
Comment c'est fait?
Voilà.
Voilà. Bon, alors là, c'est une question aussi fondamentale et pas totalement connue. En fait, ce qu'on sait, ce qui se passe, ce qu'on suppose, c'est que ces enzymes ont en général, ces moteurs ont en général deux sites. Un site où elles accrochent l'ATP et puis un site où elles font le travail. Et ce qu'on suppose, c'est que quand il y a certaines... Bon, on a certaines évidences qui viennent de la cristallisation de ces enzymes dans différents états. Donc on suppose, ou on sait en général, que l'ATP est hydrolysé, donc il est coupé dans la poche enzymatique, entre ATP, donc ADP et phosphate. Cette hydrolyse de l'ATP dans la poche va créer une déformation de l'enzyme. Cette déformation va se transmettre dans la molécule. Par exemple, pour le cas de la kinésine, on suppose que c'est l'hydrolyse de l'ATP qui va faire en sorte que les deux bras de la kinésine vont se décrocher de la microtubule, et donc, ou bien c'est l'étape de force. Donc, hydrolyse ou relargage de l'ATP est en général couplé à un changement de conformation ailleurs dans la molécule. Donc il y a un site où l'ATP est hydrolysé qui se couple à un changement de conformation ailleurs, et on arrive à étudier ces changements de conformation en bloquant l'enzyme, ou bien avec l'ATP, ou bien avec le complexe ADP-phosphate sans qu'il soit relargué, ou sans rien du tout, juste avec ADP. Donc en étudiant la conformation de l'enzyme avec ces différents produits d'hydrolyse de l'ATP, on peut essayer de voir quels sont les changements conformationnels induits par l'hydrolyse de l'ATP sur la protéine et essayer de comprendre des mécanismes à l'intérieur de l'enzyme qui coupent l'hydrolyse de l'ATP à des changements de conformation et donc à du travail.
Je voudrais savoir si les mutations chimiques ou génétiques ne seraient pas la conséquence des erreurs dont vous parliez tout à l'heure en ce qui concernait les hélicases qui ne séparaient pas toujours très bien les deux brins d'ADN.
Oui, ce qui arrive en fait, c'est que sur l'ADN, l'ADN est soumis en permanence à des attaques. Donc les UV, par exemple, vont créer des mutations dans l'ADN. Les mutations qui arrivent, c'est que les thymines dans la molécule d'ADN vont se lier de manière covalente. Ça va faire un bloc dans la molécule d'ADN. Il y a d'autres attaques chimiques, effectivement, sur la molécule d'ADN. Ce que les hélicases doivent faire maintenant, c'est enlever le morceau d'ADN pour permettre de le réparer. Donc, les mutations génétiques qui arrivent, ce sont sur des hélicases qui ne sont plus capables de faire ce travail. Ils ne sont plus capables de dégrafer la molécule d'ADN pour, par exemple, enlever l'ADN là où il y aurait des ponts entre deux thymines. Et donc, ces mutations restent dans l'ADN et lors de la réplication, elles peuvent être dramatiques. Elles peuvent créer des erreurs donc, dans la transcription du message. Et cela résulte, elles n'ont pas dû à une erreur de dégrafage de l'hélicase, mais à une incapacité des hélicases à dégrafer pour permettre aux autres protéines de venir réparer les erreurs qui ont été induites dans le code de l'ADN.
C'est une question, une extension de la question sur la consommation de l'ATP. Savoir peut-être qu'il s'agit au niveau du muscle strié de l'athlète, du coureur de marathon, comment l'ATP réagit entre les filaments d'actine et de myosine, qui sont je reprends le terme agrafage musculaire, donc de l'effort, et qui donc produit de l'ATP à l'ADP ou l'acide pyruvique, les pyruvates.
Donc tout à fait, dans les muscles, le moteur qui marche dans les muscles, c'est la myosine, et les fibres qui sont... donc les muscles, la manière dont les muscles marchent, c'est qu'il y a deux sortes de fibres. Il y a des fibres motrices, qui sont les myosines, et il y a des fibres qui sont rails, qui sont les fibres d'actine. Donc, vous avez, si vous voulez, si cette main-ci, les doigts, ce sont les fibres motrices, donc de myosine. Là, vous avez les fibres d'actine, qui sont donc les rails. Et la manière dont le muscle marche, c'est que les fibres motrices tirent les rails vers elles. Elles avancent sur les rails, et donc elles vont amener les rails l'un dans l'autre. C'est un petit peu comme les mâchoires d'une clé à molette. Donc les fibres de myosine se déplacent sur les fibres d'actine et en fait tirent les fibres d'actine vers le centre. Vous avez deux fibres d'actine qui sont entraînées par les myosines. Et vous avez un grand nombre, la différence entre les myosines, donc les myosines aussi utilisent de l'ATP pour avancer sur les fibres d'actine, la différence entre les myosines et les kinésines, c'est que les myosines, elles travaillent en grand nombre. Elles sont sur une fibre de myosine, vous en avez des centaines, des milliers de molécules qui vont tirer sur les fibres d'actine. Donc, le problème qui se pose, c'est que comment est-ce qu'on coordonne cette traction des fibres de myosine sur les fibres d'actine ? Parce que vous imaginez que s'il y en a une qui tire quand une autre est juste accrochée, ça peut faire beaucoup, ça va rendre toute la contraction très peu efficace. Et la manière en fait, dont apparemment la nature a résolu le problème, c'est que les fibres de myosine ont une interaction très courte avec les fibres d'actine. C'est-à-dire que la fibre de myosine arrive, tire et s'en va. Elle s'accroche, elle tire et elle s'en va. Et donc, quand vous avez beaucoup de molécules, elles ne se sentent en fait pas. Chacune, le modèle que les gens donnent, c'est le modèle des rameurs. Vous avez des rameurs qui, au lieu de ramer d'une manière coordonnée, en fait, donnent un petit coup et chacun à son tour. Et de cette manière-ci, ils n'interfèrent pas les uns avec les autres. Donc le bateau arrive à avancer, les fibres d'actine arrivent à être attirées par les fibres de myosine sans qu'il y ait besoin d'une coordination d'un skipper qui dise aux myosines à chaque instant vous devez tirer parce que ce skipper n'existe pas.
Quelle est l'origine et la nature des tubules, s'il vous plaît ?
Des
tubules.
Des microtubules. Les microtubules sont un polymère formé d'unités appelées tubulines. Donc ce sont des unités, il y a 13 tubulines, ça forme un tube creux. Les tubulines s'encastrent les unes sur les autres en formant une espèce d'hélice. Donc vous avez un tube creux avec les tubulines qui s'embobinent tout autour et qui vont former donc un tube avec en moyenne 13 tubulines sur la périphérie et tout ça sur une taille de plusieurs microns. Alors il y a toute une dynamique très intéressante sur les microtubules parce que ces assemblages ne sont pas fixes, on ne construit pas, vous pouvez imaginer ça un petit peu comme une cheminée. Vous avez les briques, ce sont les tubulines, et au centre vous avez le creux, là où passe la fumée. Donc vous avez une espèce de cheminée construite avec ces briques de tubulines, mais en fait ces cheminées-ci ne sont pas permanentes, vous construisez pas elles sont en permanence détruites et reconstruites. Donc les microtubules sont relativement longs, mais elles subissent ce qu'on appelle une instabilité dynamique, c'est-à-dire que de temps en temps, il arrive quelque chose à l'extrémité qui déstabilise toute la microtubule, et toute la microtubule va se dépolymériser, les briques vont tomber les unes après les autres, et puis tout d'un coup, elle va être reconstruite de nouveau. Donc en permanence, ces assemblages sont dynamiques. Ces microtubules, ces espèces de longs cylindres, sont détruits, reconstruits. Il y a des raisons à ceci qui permettent de mieux rechercher ou de mieux transporter les choses dans la cellule avec une structure dynamique qu'avec une structure figée. Apparemment, il y a des argumentations là-dessus, on peut mieux transporter ou diffuser dans la cellule différentes composantes si les structures ne sont pas figées, mais si elles sont en permanence adaptables ou déconstruites et reconstruites.
David Ben-Simon, merci.